Cette semaine, Annette Wieworka rencontre Talila. Ce soir, en scène.
J'en ai fait des spectacles, dans toutes les positions, en tout lieu, dans tous les décors. Talila, vous avez fait effectivement des spectacles en tout lieu, à New York, en Argentine, en Pologne, en France aussi bien sûr, et sur des scènes, des grandes et des très petites, des esplanades où l'on commémorait et des petits théâtres. Et puis vous avez enregistré des albums. En comptant, nous en avons trouvé 13, les deux premiers avec Colaviv et principalement en hébreu. Alors, j'ai envie de vous demander, parce que ça m'intrigue depuis le Café d'Edgar, que signifie pour vous chanter ?
C'est une question qui demandera beaucoup de et qui demande beaucoup de séances, peut-être psychanalytiques. Que signifie chanter ? Ça commence petit, hein. On prend un plaisir à se produire sur une table de salle à manger vers l'âge de, je pense, 4-5 ans.
Et avec le public.
le public parental, bien sûr, familial, peut-être amical aussi, un peu. Ça s'élargit d'année en année. On vous dit que vous avez un brin de voix agréable et vous y prenez goût vous-même à ce grain de voix. Et puis surtout, vous êtes très sensible aux mélodies que vous écoutez à la radio, qui ouvrent un univers. C'est le premier choc, c'est la mélodie. On a envie de reproduire ce qu'on entend parce qu'on trouve ça harmonieux, joli. Ensuite viennent les paroles qui sont dites et qui expriment l'amour, par exemple. Et quand on est une petite fille un peu narcissique, un peu coquette, etc. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. On prend goût à tout cela, on prend goût à se produire. Mais c'est aussi un grand plaisir de sortir sa voix. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir un grand frère qui joue du piano et qui m'accompagne dans certaines chansons et dans certains chants classiques que je chante très mal, hein, mais j'y prends un très grand plaisir. C'est comme une libération. Ça fait du bien de chanter. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui chantent dans des chorales, se sentent beaucoup mieux après une séance de chorale.
Quand je vous regarde chanter ou quand je regarde d'autres chanteurs ou chanteuses chanter, on a l'impression que ce n'est pas la voix seulement, mais qu'en fait c'est tout le corps qui est impliqué dans le chant.
Oui, bien sûr, ce n'est pas seulement les cordes vocales. Elle vibre grâce au souffle et grâce au corps entier, grâce aux jambes plantées dans le sol. Moi qui ne suis pas très grande, j'ai l'impression de m'élever, de grandir de 20 centimètres et de m'élever vers le ciel. On oublie aussi qui on est et ça c'est quand même très important. On oublie sa timidité. On a le trac, bien sûr, hein, quand on se présente, même devant une minuscule assemblée. Moi, c'est quelque chose qui m'habite toujours avant d'ouvrir la bouche. Mais c'est quelque chose qu'on oublie petit à petit. Et c'est une délivrance. Et un plaisir, évidemment.
C'est aussi, je pense, un lien avec votre public. Parce que vous avez un public qui suit tous vos concerts, qui écoute vos disques. Quel est ce lien que vous établissez avec le public ?
Eh bien justement, comme on se met à nu sur scène, comme on exprime même ce qu'on ne sait pas exprimer, c'est-à-dire qu'on exprime ce qui s'échappe de vous sans qu'on s'en aperçoive, le public, lui, n'est jamais dupe de ce qu'on exprime, même si nous-mêmes, nous n'en avons pas conscience. Et le public ressent une sorte de sentiment de complicité avec vous et crée un lien avec vous. Alors d'autant plus quand on chante comme je le fais en yiddish et que à travers les chants que je chante, je raconte tout un monde et un monde que ce public lui-même a connu, alors dont il a idée ça crée un lien particulier. Et effectivement, il y a des gens qui suivent les spectacles. Il n'y en a pas toujours assez, mais il y en a quand même. Et on en rencontre qui vous disent qu'ils vous ont vu il y a des années, qui gardent un souvenir très ému de cette rencontre.
Vous nous avez dit que vous aviez reçu le prix Charles Cros pour Otazoï, qui était donc cet album enregistré avec Colavive.
Oui, c'est le groupe qui a reçu ce prix.
Depuis cet album, puis encore un autre album enregistré avec Colavive, votre répertoire a beaucoup bougé.
Oui, d'abord, on interprète des chants très classiques qui appartiennent directement au folklore. Et puis, petit à petit, on cherche évidemment la nouveauté, on cherche de nouveaux répertoires. Donc, c'est tout le répertoire yiddisho-américain dont j'ai déjà parlé.
Comment vous trouvez ces chansons? Vous lisez des livres, vous écoutez des albums?
On écoute des choses anciennes. On écoute... Il y a beaucoup d'enregistrements qui viennent de partout. Il y a beaucoup d'enregistrements américains. Et il y a énormément de partitions. Il y a des recueils qu'on trouve ici. Évidemment, si on va à New York, on en trouve encore plus. Mais on a des réseaux qui achètent pour vous aussi, si on ne va pas toutes les semaines à New York. En Israël, à l'Université de Jérusalem, j'ai trouvé énormément de partitions. Et j'en ai fait des photocopies que j'ai ramenées. Donc, j'ai énormément de choses. Et puis, il y a des gens très sympathiques qui, s'il vous aime bien, vous envoie une chanson. Il y a 3 jours, il y a un monsieur que je ne connais absolument pas, qui ne savait absolument pas où j'habitais, a envoyé une lettre à la SACEM. Qui me l'a envoyée? Dans cette lettre, il y a une partition assez simpliste, d'une berceuse. Et il m'envoie tout cela.
Il a composé lui-même.
Et qu'il a composé. Il me demande...
Avec des paroles.
Avec des paroles, absolument.
Il y a en yiddish.
Il y a la ligne mélodique, c'est une partition très simple. Et il me demande si je peux l'utiliser. Et si je ne l'utilise pas, il me prie de la lui renvoyer. Parce que j'ai beaucoup aimé. Mais je vais répondre à ce monsieur. Il y a des amis qui écrivent des chansons. J'ai un ami qui compose de la musique sur des poèmes. Quand je découvre la vérité de la langue yiddish, je découvre donc sa littérature en yiddish et je découvre des poètes que j'ignorais totalement. Et il y en a 2 particulièrement que j'aime, c'est Itzik Manger ou Levik. Et j'ai la chance d'avoir soit des connaissances qui écrivent des musiques sur ces poèmes, soit les musiciens qui écrivent eux-mêmes sur des poésies.
Quand on vous regarde chanter, enfin vous ou d'autres chanteurs ou chanteuses, on voit qu'il y a un lien très particulier avec les musiciens. On a vraiment l'impression que quelque chose de très fort circule entre vous et les musiciens. Et dans le même temps, on a aussi l'impression qu'en dehors du répertoire, c'est-à-dire de la partition et des paroles, la question des arrangements compte beaucoup. C'est-à-dire que la même chanson, même partition, même parole peut être chantée de façon très différente. Donc, vos musiciens, vous êtes fidèles, vous n'êtes pas fidèles. Quelle est votre histoire avec vos musiciens?
Je crois que je suis plus fidèle que les musiciens le sont avec les chanteurs. Mais j'ai connu... certains des musiciens avec qui je travaille, il y a des années, comme le contrebassiste Pierre Mortarelli, que j'ai connu il y a très très longtemps, c'est-à-dire au moment du chant profond juif d'Ev Grilikez, dans les années 79-80. Donc ça fait un bail quand même. Alors il y a eu des fâcheries, des infidélités, mais on se retrouve toujours. Il y a effectivement, quand on travaille avec des musiciens, qu'on les retrouve souvent, une grande complicité. En fait, on a grandi ensemble, on a vieilli ensemble, on a connu des aventures diverses, des aventures joyeuses et des aventures plus tristes, quand il n'y avait pas assez de public ou quand quelqu'un s'est planté, comme on dit, que ce soit moi d'ailleurs ou que ce soit eux, ça leur arrive aussi. Il y a des tas de choses qu'on a vécues ensemble. On sait ce qu'est leur vie. Ils savent ce qu'est ma vie, donc effectivement, ça crée une grande complicité. Et il y a souvent chez les musiciens, donc chez les hommes, quand ils accompagnent une chanteuse, et ça j'en ai connu quelques-uns, une sorte de désir de protection.
Ça se sent quand
oui,
on...
Oui, et il protège la pauvre créature qui se trouve là-devant avec son micro. Et qui n'est pas si faible que ça, certains le reconnaissent parfois et disent que, au contraire, il faut avoir un sacré cran parfois pour surmonter certaines choses. Ils ont ce désir protecteur, certains ont aussi le désir de les changer, de les faire progresser, car les chanteuses sont toujours considérées comme des parentes pauvres de la musique. Je ne parle pas des chanteuses classiques, mais je parle des chanteuses de variété. Ça, c'est vrai qu'ils sont à la fois protecteurs, ils veulent nous faire progresser, ils veulent nous faire changer, ils veulent nous apprendre quelque chose, enfin, être garçon, quoi.
Voilà. Est-ce que vous pourriez évoquer quelques-uns de ces musiciens? Il me semble que vous avez parlé déjà d'Ezra.
Oui, Ezra Bousquella, c'est un camarade d'il y a fort longtemps.
Un camarade du Dror.
Un camarade du Dror, un Javert, comme on dit. Mmh. Je l'ai donc connu au mouvement de jeunesse. Il jouait de la guitare, et il jouait très bien d'ailleurs. Et moi, je chantais, donc il m'accompagnait. Parce que le mouvement, c'était ça aussi, c'était l'émulation intellectuelle, mais c'était aussi une sorte d'émulation artistique. Donc ceux qui jouaient d'un instrument, jouaient de leur instrument. Et puis celles qui chantaient, chantaient, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu Ezra. Ensuite, il a fait partie, évidemment, du groupe Colavive, et c'était lui qui était chargé des arrangements des chansons. Et c'est ma première rencontre avec, en fait, un arrangeur de musique et un accompagnateur très exigeant. Alors lui, effectivement, correspond très bien au portrait que j'ai fait, à la fois protecteur et directeur et directif. Mais j'ai beaucoup appris grâce à lui. Donc il fait les premiers arrangements sur les chansons que j'interprète à la fois en hébreu et en yiddish. Ce sont des arrangements très classiques et très beaux. Quand je les réentends maintenant, ça m'arrive quelquefois,
je les trouve très beaux. Et vous les rechantez ou pas ?
Pas sous cette forme. Les chansons, je peux les rechanter, mais je ne les chante pas arrangées de cette façon-là.
Alors, tous ceux qui ont suivi votre carrière musicale n'ont pas oublié, parce qu'il était inoubliable par son format, par la place qu'il occupait sur la scène, un homme aujourd'hui disparu qui s'appelait Eddie Schaff.
Alors lui, c'est un personnage extraordinaire, tant, comme vous le dites, physiquement que musicalement.
Vous avez écrit ou dit qu'il était un monstre physique et musical.
Oui, c'est exactement ça. Une fois, on travaillait au Pigalle, enfin, je faisais une série de concerts au Pigalle dans les années 90, et un nouveau régisseur est arrivé, il ne nous connaissait pas, le régisseur Lumière. Et il voit Eddie, et je ne sais plus qui lui fait la blague, et lui dit « Mais oui, c'est lui qui jouait Casimir à la télévision, dans ce fameux, je ne sais pas si ça parle beaucoup aux auditeurs, mais le fameux dessin animé que les enfants regardaient dans les années 80, je crois, quelque chose comme ça. Une sorte de monstre étrange, et il l'a cru. » Parce que physiquement, effectivement, il ressemblait un petit peu à Casimir.
Mais son instrument, c'était à la fois le piano, mais surtout l'accordéon.
Oui, alors il avait fait des études, il était né en Roumanie, ensuite ses parents avaient immigré en Pologne, et son premier instrument, c'était le piano. Et il était destiné à devenir un grand concertiste au piano. Et puis, il nous a toujours dit, parce qu'il avait le sens des formules aussi, avec son accent. Puis un jour, j'ai découvert la liberté et l'amour. Alors, j'ai laissé tomber ma carrière, mais il était très, très, très doué. Et ensuite, il a émigré en Israël, et là, il s'est mis à l'accordéon. Et à l'accordéon, il est devenu vraiment un musicien très étonnant, parce qu'il avait un sens harmonique qui étonne toujours. C'était des harmonies très originales et il retombait toujours sur ses pieds et c'était un accompagnateur extraordinaire. C'est-à-dire que, alors lui, comme protecteur de chanteuses, il était vraiment le premier sur la liste et très très fort. Les chanteuses, pour lui, étaient des êtres faibles, très très féminins, et il était très sensible à la gente féminine, évidemment. Il fallait les protéger, et il faisait une introduction musicale qui vous emmenait totalement ailleurs. Vous ne saviez absolument pas. Si vous entendiez la tonalité, évidemment, de la chanson.
Qui changeait à sa guise.
À sa guise, totalement. Vous ne saviez jamais comment il allait commencer une chanson. Mais il vous rattrapait toujours. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'il vous écoutait aussi. Il comprenait en plus le yiddish. Il parlait l'allemand très bien. Et il comprenait ce que vous disiez. Et il s'accordait totalement à votre expression.
Alors ça m'intrigue l'accordéon, parce que, sans vouloir être insultante pour ceux qui pratiquent l'accordéon, en France c'est quand même synonyme de balmusette, c'est un peu franchouillard, donc c'est considéré comme n'étant pas un instrument de... vraiment de grande musique.
Ça l'était. Ça a beaucoup changé grâce à des gens comme Richard Galliano, par exemple, qui a commencé, lui, à jouer musette, mais qui s'est délivré du musette. Et mais moi, quand j'entends maintenant du musette que je méprisais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'y suis très sensible, comme quoi on peut changer et revenir à d'autres sentiments. Mais l'accordéon, c'est un instrument extraordinaire parce que c'est un orchestre à lui tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes accompagné à l'accordéon, vous n'avez pas besoin, en fait, d'autres
ni piano,
instruments.
Ni clarinette,
rien du tout, ni même contrebasse. C'est un instrument qui a une très très grande tessiture, qui peut avoir des sonorités différentes, qui peut jouer forte, puis diminuer, exactement comme un orchestre dirigé par un chef d'orchestre. Et Edi Schaff, justement, ne jouait pas du tout dans le style musette, il aurait aimé d'ailleurs, mais jouait de cet instrument de façon extrêmement originale, avec des connotations évidemment très très slaves, mais aussi pouvant être autre chose, un objet venu d'ailleurs, extrêmement original et incroyable.
Donc parmi les musiciens qui ont compté, qui comptent toujours pour vous, il y a aussi Teddy Lasry.
Ah ben oui, il compte beaucoup pour moi, Teddy Lasry, bien sûr. Je l'ai connu il y a bien longtemps, puisqu'il jouait de la clarinette. Je l'ai connu en 1986. Il m'accompagnait donc en yiddish et dans un spectacle que j'ai fait aussi en français au De Jazet. C'est lui qui dirigeait l'orchestre, enfin l'orchestre qui était limité à trois instruments puisqu'il
trois
y avait
la clarinette, la contrebasse.
Edi Schaff était au piano ou à l'accordéon, Pierre Mortarilli à la contrebasse et Teddy à la clarinette ou aux percussions, car c'est aussi un percussionniste. Teddy Lasry est un multi-instrumentiste, il joue de tous les instruments, sauf le violon, mais son instrument premier, c'est la clarinette. Mais il joue aussi du piano, et il est l'arrangeur des deux derniers CD que nous avons enregistré.
Pour donner le titre de ces albums.
Oui, l'avant-dernier, c'est Mon Yiddish Blues.
Et le dernier,
l'autre s'appelle Le Temps des Bonheurs.
Des Bonheurs. Ouais. Et alors, que changent les arrangements de Teddy par rapport aux albums précédents?
Eh bien,
parce qu'il y a un vrai changement.
Oui, il y a un vrai changement. Teddy vient d'un univers musical qui n'est pas l'univers yiddish ni hébraïque. Il est un des cofondateurs de Magma, il vient du jazz, de l'improvisation. Il n'a pas de... comment dire, il fait de la musique comme il a envie d'en faire, et quand on lui présente une chanson yiddish avec une certaine mélodie, il l'arrange selon ce qu'il ressent et non pas selon une histoire, selon ce qu'il doit se faire ou ce qu'on attend qu'on doit faire. Il l'arrange à sa façon. Et souvent, sa façon, je la trouve à la fois originale, non connotée, entre guillemets, moderne, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Dans un des derniers spectacles qu'on a fait à la salle Gaveau pour la sortie du disque Le Temps des Bonheurs, il y avait un batteur et une guitare électrique, ce qui est totalement incongru. Quoique maintenant, les orchestres dits klezmer s'ouvrent à toutes les possibilités, et en particulier aux possibilités jazzistiques. On fait des expériences avec Teddy, et souvent, on arrive aussi à quelque chose d'infiniment simple dans son accompagnement, par exemple au piano, puisqu'il m'accompagne donc maintenant aussi beaucoup au piano, puisque c'est lui le pianiste avec lequel je travaille. Il joue un peu d'accordéon aussi, mais surtout du piano. Et on arrive à une sorte d'essence de la chanson, je dirais. Quelque chose de très simple, de parfois très, très minimal, et aussi de quelque chose qui a quelque chose qui balance, parce qu'il a le sens du swing, que je n'ai pas toujours, moi, mais qu'il me pousse à avoir. Et le swing, c'est quand même, dans beaucoup de chansons yiddish, contrairement à ce qu'on croit, on croit souvent que la chanson yiddish est nostalgique, mélancolique, triste, elle s'étire comme ça, comme une longue plainte. Eh bien, la chanson yiddish swing aussi beaucoup. Et ça, ça me plaît beaucoup, de travailler dans cette voie-là.
Teddy Lasry, mais aussi, moi je vous ai vu en spectacle, et d'ailleurs aussi à la télévision, avec Jean-François Zigel.
Ah oui, alors, il y a des rencontres dans la vie des chanteurs.
Comment vous l'avez rencontré, Jean-François ?
Eh bien, Jean-François, je l'ai rencontré en 93, je crois, 94. Nous faisions avec Benzimet un spectacle qui a marqué, qui a compté, en tout cas dans notre vie, et dans la mienne, très certainement, et même dans la vie de la vieille grille. Nous faisions un spectacle qui s'appelait Yiddish Cabaret, et Eddie Schaff nous accompagnait sur cette minuscule scène. Et puis Eddie Schaff, comme je vous ai parlé de l'infidélité des musiciens beaucoup plus grande que celle des chanteurs, eh bien, avait autre chose à faire. Et donc, il a fallu trouver un remplaçant. Nous avions entendu dire que Jean-François accompagnait des films muets, et en particulier avait accompagné des films yiddish. Quelques personnes nous ont dit qu'on devrait s'adresser à lui. Peut-être qu'il accepterait de nous accompagner au piano à la Vieille Grille. Alors Jean-François est venu à la Vieille Grille, a assisté au spectacle que nous faisions et a écouté Eddie Schaff. Et il nous a dit « Mais je ne pourrais jamais faire cela ». Il était étonné, estomaqué, je crois que je peux le dire, par le jeu très particulier d'Eddie au piano.
Et qu'est-ce que vous avez fait après avec Jean-François ?
Alors après, avec Jean-François, donc je l'ai connu, ça a été pour moi extrêmement important de le rencontrer, il nous a accompagnés, ensuite il m'a accompagné, et ensuite j'ai la chance de continuer à travailler avec lui et à faire des spectacles. Un spectacle qui s'est appelé Mishpuche, c'est-à-dire ma famille, où il joue du piano, il raconte des choses, où je raconte des choses, où je chante, où Martine Bailly joue du violoncelle et parfois Teddy a joué de la clarinette. Et ce spectacle a changé de nom, il s'appelle East Side Story.
Donc c'est un spectacle un peu composite,
oui.
Où vous chantez, vous jouez de la musique, enfin vous, l'ensemble.
Où Jean-François...
Et où Jean-François lui raconte...
Il raconte, il improvise et il joue ses œuvres, puisqu'il a composé également des œuvres dites d'influence juive en tout cas. Voilà ce que je fais avec Jean-François et c'est une rencontre extrêmement importante pour moi, parce que lui aussi est très exigeant. Et quelqu'un de très exigeant, eh bien, ça vous fait faire des bons et ça vous fait faire des progrès. Voilà pourquoi il est important pour moi. Rencontre très importante aussi parce que Jean-François Zigel m'a fait monter sur des scènes sans doute sur lesquelles je ne serais pas montée. Par exemple, le Châtelet à Paris. Je ne pense pas que j'aurais pu y faire un récital, sauf à louer la salle, bien sûr, comme ça peut arriver à certains. mais je ne pense pas que j'aurais été programmée. Donc ça, c'est quand même très important. Ou le TNT à Toulouse, où on voit tout d'un coup 1000 personnes devant soi et des théâtres pleins. Ou une synagogue, une cathédrale, deux cathédrales, la cathédrale de Carpentras, une grande église dans le Luxembourg belge, à Arlon. En fait, des scènes tout à fait étonnantes, et même le palace, scène où je ne pense pas que je serais allée chanter. Donc avec Jean-François, j'en ai fait des spectacles, et j'en ai fait des scènes, et des scènes extrêmement importantes.
Merci Talila, à demain.
À demain.
Auf dem Weg steht der Bäum, steht der Rhein gebogen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerflogen. Drei kein Meiref, drei kein Misrech und der Rest keine Dorem. Und dem Bäum gelost allein.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Annette Wieworka avec Talila. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élodie Royer, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
Über den Winter mit der Trist, mit der schönen Nigen. Hey, da, di, 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 da, hey, da, di, 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 da. Sog die Mame, nicht der Kind, und sie weint mit Tränen. West Cholile auf dem Bäum, mir verfreuen werden. Sog ich Mame, sie ist erschott, deine schöne Augen. Und jeder was, und jeder wenn, bin ich mir erfolgen. Weint die Mame, itzig kreun, seh um Gottes Willen, nehm sich mit der Schalikel, kennst sich noch verkillen, die Kaloschen tu sich an, s geht der scharfer Winter, und die Kutsch me nehm euch mit, weis mir. Wind mir. Hey, da di 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 da. Hey, da di 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 da. Und das Winterleibel nimm, tu es an, du scheute. Ob du willst nicht sein, kein Gast zwischen alle Teute. Heb die Fliegel, es ist mir schwer, zu viele Sachen hat die Mame angetan, ihr Fehler. Guck ich treuerig mir rein in mein Mames Augen, so ihre Liebschaft nicht gelost, wär mir ein Feudel. Auf dem Weg steht der Bäum, steht der Rhein gebogen. Alle Vögel von dem Bäum sein. zerfleuen. Hey, daddy, 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 hey, daddy, 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 daddy,